On va parler de zones industrielles dans ce journal, mais aussi de concurrence. On ira faire un tour à l'OPT et on dansera au parc Bougainville avant le sport en fin d'édition. Et ce journal est présenté par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Harry, bonjour à tous.
On part pour commencer dans les ZAC du pays.
Et oui, des zones d'activité économique qui font l'objet d'un état des lieux de la part de l'agence Opoua, l'agence d'aménagement et de développement durable. On parlait mardi soir devant la CCUSM et son président le précise, ce travail de recensement et d'identification des zones d'activité économique ne fait que commencer. Écoutez.
L'idée de ce premier travail, c'est de montrer qu'il y a un sujet. Et donc de montrer qu'on a des zones qui ont été faites avec l'histoire, hein, sans forcément qu'il y ait une planification volontaire, en tout cas une volonté publique de mettre en place des zones. Aujourd'hui, ça peut générer des problèmes de fonctionnement, des problèmes de conflits d'usage.
Olivier Solari, président de l'agence Opoua, donc, qui précise que ces zones d'activité sont parfois difficiles à cerner puisqu'elles ne sont pas toutes installées sur des zones dédiées dans les PGA. Les identifier permettrait de mieux adapter les réseaux de voirie, de mieux gérer les activités, de faire un état des lieux sur les parcelles non utilisées ou sur les bâtiments industriels. À Titiolo, par exemple, 19 hectares de parcelles sont mobilisées, mais seulement 9 réellement occupés par des locaux et 95% d'entre eux ont un aspect extérieur délabré. Reste donc encore beaucoup de travail à mener.
Il y a besoin de mieux affiner par zone maintenant, à partir du moment où il y aurait une validation par nos partenaires de ce travail qui irait beaucoup plus loin en fait. Cet observatoire nous permettrait ensuite de mieux accompagner tous les travaux sur les documents de planification, sur les études qui pourraient être réalisées plus long terme et surtout sur en fait, l'attractivité économique en général des territoires.
Olivier Solari au micro de Delphine Barré qui parle, vous l'avez entendu, d'un nouvel observatoire des zones d'activité économique de ces zones industrielles. Donc, objectif final de l'étude de Opoua, c'est de favoriser le développement économique aujourd'hui limité par le manque d'espace et le manque de cohérence de certains aménagements.
Et puis un tour du côté de l'APC maintenant.
Et oui, l'autorité polynésienne de la concurrence qui a accueilli 7 nouveaux membres dans son collège ces dernières semaines, des membres qui ont participé mardi et mercredi à une session de formation pour les écuyers, la présidente Joanne Père, mais aussi Vivien Terrien, professeur de droit de la concurrence et conseiller auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors parmi ces nouveaux membres, il y a par exemple Léopold Biardot, originaire de Punaoya, mais qui est chercheur en économie de l'environnement en Nouvelle-Zélande. Le Benjamin du collège travaillera donc principalement en distanciel et mettra à profit ses connaissances en microéconomie et en statistique pour le faire marcher la concurrence au Fénois. Ces deux jours, dit-il, ont été l'occasion de consolider les bases.
Probablement la première chose qu'on nous a inculquée comme notion, ça a été de dire en gros que l'autorité de la concurrence se définit de deux façons, par son indépendance et pour qu'on puisse vraiment ne pas être remis en question au niveau de la justice, il est impératif donc de respecter des règles très très strictes de séparation entre le service d'instruction et toute la partie justement collège.
Voilà, le nouveau collège de l'APC justement nommé en septembre et qui a déjà siégé, ce séminaire était l'occasion de clarifier certains points, de poser les bonnes questions et de muscler le jeu par des simulations de cas pratiques sur les principaux sujets de l'APC. On parle d'entente, d'abus de position dominante, de concentration et d'aménagement commerciaux. Joanne Père, la présidente de l'autorité, est impressionnée par le sérieux des nouveaux membres.
Ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, ils prennent tous leur rôle extrêmement au sérieux. Certains m'ont surprise en arrivant avec des précis de droit de la concurrence, etc. Les premières questions que j'ai eues étaient essentiellement liées à leur rôle personnel et ils étaient très à cheval sur les règles de procédure. Ils ont le souci de la sécurité juridique des décisions.
Voilà, prochain grand rendez-vous pour l'APC, un workshop international des autorités de concurrence du Pacifique qui se tiendra à Tahiti au mois de février prochain.
On revient sur cette question maintenant. Qui sera le prochain PDG de l'OPT?
Et oui, une question sur la table depuis que Jean-François Martin, en poste depuis 2015, a annoncé son départ. C'était en juillet. Le gouvernement n'avait pas tardé à lancer les recherches de remplaçants. Et malgré la situation délicate de l'établissement public, le poste attire les candidats, 22 au total, puis 5 après un tri d'un prestataire privé. Ces prétendants ont ensuite été auditionnés, notés, hiérarchisés par un jury politico-administratif et les résultats devaient être présentés hier soir à Muay Thai Brothersson. Le président n'a pas respecté le classement, mais il devra soumettre son choix à l'Assemblée, au Conseil des ministres. La shortlist de candidats, elle, est toujours tenue secrète, mais des noms de potentiels PDG ont déjà circulé, notamment celui de Maria Noué, juriste de formation qui a monté depuis une quinzaine d'années les échelons du groupe. La fille de la ministre Chantal Galnon est aujourd'hui la secrétaire générale de l'OPT, un poste clé qu'occupait d'ailleurs Jean-François Martin avant d'être nommé. Autre candidat auditionné, extérieur au groupe, celui-là, ce Roland Bopp, cadre de la mairie de Pha et ancien directeur de cabinet d'Oscar Temaru. Damien Charita, lui, a fait le déplacement depuis la métropole pour participer à cette sélection. Ce chef d'entreprise spécialisé dans le conseil et la formation en télécom a régulièrement travaillé avec la Polynésie et notamment avec l'OPT. Alors d'autres noms ont aussi circulé ces derniers temps, notamment celui d'Ina Delva, actuelle directrice commerciale d'EDT Engie, qui dément pourtant avoir été auditionnée. Et puis plus étonnant, le nom de Thomas Lefebvre-Segard, qui est aussi revenu sur la table. L'éphémère directeur Donati, remercié par Jean-François Martin et qui est en conflit judiciaire avec l'OPT. Beaucoup de possibilités donc, auxquelles s'ajoute une autre option pour Moët & Brotherson, celle de scinder le poste de PDG en deux, avec un directeur général d'un côté et un président du conseil d'administration de l'autre. Une organisation qui prévalait jusqu'en 2015 dans le groupe. Écoutez.
Ça dépendra du bilan, d'abord du fait qu'on ait fusionné ces deux postes. Il ne faut pas non plus que ça coûte plus cher que ce qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, Jean-François a cumulé ces deux fonctions sans être rémunéré en tant que président du conseil d'administration. Voilà, c'est un choix qu'on devra faire. Mais pour l'instant, l'appel à candidature est basé sur le poste actuel.
Vanina Krolla, la ministre de la fonction publique, qui faisait donc partie du jury. Il faut tout de même préciser que si le groupe OPT était passé à un PDG unique, c'est notamment sur recommandation de la Chambre territoriale des comptes. La décision de Moët & Brotherson devrait tomber dans les jours à venir. Elle est très attendue. Le groupe OPT, avec ses filiales Onati, Farelata ou Mahara Paiement, entre autres, c'est 22 milliards de francs de chiffre d'affaires et une perte record de 2 milliards l'année dernière.
Et sans transition, on parle d'un événement et d'un événement dansant.
Et oui, avec cette invitation spéciale hip-hop lancée par l'association Yes We Dance, elle organise sa block party le samedi 9 décembre au parc Bougainville à Papeete. Le dernier rendez-vous de ce genre, c'était en 2013 et l'objectif est toujours le même, faire la promotion du breaking, appelé aussi breakdance. Ce style issu du hip-hop fait partie des nouvelles disciplines inscrites aux Jeux Olympiques de 2024. L'association locale veut donc surfer sur cette vague pour redynamiser la culture hip-hop dans sa globalité au Fénois. Écoutez les précisions de Valentine Bluet, la présidente de Yes We Dance.
Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est relancer le hip-hop, découvrir des talents, parce qu'on aimerait beaucoup que l'année prochaine, pour l'ouverture des épreuves de surf pour les JO, il y aura une grande manifestation, on voudrait faire un grand spectacle avec tous les meilleurs danseurs locaux de breakdance pour représenter le breakdance polynésien et peut-être tisser des liens avec d'autres danseurs d'autres îles ou même, par exemple, on a des liens avec la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on voudrait créer des liens pour peut-être un jour pouvoir emmener un danseur de breakdance polynésien dans l'équipe des JO françaises. Hein.
Voilà, en attendant, l'association organise une après-midi festive avec un programme chargé comprenant plusieurs ateliers de découverte, de démonstration, mais aussi des shows et des battles. Un événement grand public, écoutez.
Tout le monde peut venir. Alors on a mis une petite tranche d'âge à partir de 7 ans parce que c'est là où on commence à être un peu plus à l'aise avec son corps, mais de 7 à peu importe, même si t'as jamais dansé ta vie, tu peux venir démarrer, ce sera simple, hein, c'est vraiment une initiation, donc il n'y a rien de compliqué, ce sera safe, tous nos profs ils ont l'habitude, quelques-uns ont des écoles déjà, donc ils savent ce qu'ils font, donc ce sera safe, ce sera simple et c'est vraiment ouvert à tous, ce sera vraiment bon enfant quoi.
Voilà le message de Valentine Bluet dont vous avez peut-être reconnu la voix si vous êtes des fidèles auditeurs de Radio 1, un message qui est passé, l'association vous attend nombreux au parc Bougainville, ce sera le samedi 9 décembre.
Et puis on finit comme souvent par les Jeux du Pacifique qui touchent à leur fin.
Et oui, il reste 2 jours de compétition et Tahiti pointe désormais à la 2e place du classement. 141 médailles, 46 en or, encore loin des impitoyables calédoniens. Mais la délégation du Fénois est désormais devant l'Australie et ce grâce à 5 nouvelles médailles d'or récoltées hier, Valdemar Delage.
A commencé Charlie par le triathlon. Hier matin, Benjamin Zorniotti l'a emporté chez les hommes, tandis que Salomé De Barthez a gagné chez les filles. Alors le premier conserve son titre, tandis que la seconde décroche enfin l'or après 2 médailles d'argent sur les 2 derniers jeux. Et puis on note aussi ces 2 médailles d'argent justement pour Jean-Marc Rimaud chez les messieurs, toujours en triathlon, et Maïdi Sucé chez les dames. Maïdi qui n'a que 16 ans, hein, ce qui prouve que la relève tahitienne est au rendez-vous. Alors sur ces 2 courses, les Tahitiens ont fait la différence dans l'eau, avant de montrer un bel esprit d'équipe sur la partie cycliste. La différence pour la médaille d'or s'est finalement faite sur la partie pédestre à chaque fois. Et chez les hommes comme chez les filles, ce sont des Calédoniens qui ont obtenu le bronze. Tahiti-Calédonie, c'est l'opposition régulière en triathlon dans le Pacifique. Mais cette année, il n'y a pas eu match, Charlie.
Et Valdemar Delage, notre envoyé spécial au Salomon, qui suivra donc aujourd'hui les triathlètes qui enchaînent avec les épreuves par équipe, mais aussi par l'aquathlon. Nouvelle chance de médaille donc. Les rameurs, de leur côté, vont disputer les courses course de marathon en V6. Des rameurs qui ont aussi rapporté des médailles d'or hier. Une quatrième pour Iloa Eichel en kayak, sa deuxième avec sa jeune partenaire de 16 ans, Natéhaï Sommer. Les Tannais ont fait médaille d'argent sur la même épreuve de marathon et Leva était aussi engagée en longue distance. Or encore pour Tuatea Telayamano, de l'argent pour Maïa Berdi Shevsky Poroy et de l'or toujours décidément en athlétisme pour Reiho Mayao, de nouveau dominateur en saut en longueur. Du côté des terrains de football, le tournoi s'est terminé pour les Toa Eito, s'est terminé par une victoire contre la Papouasie, mais les footballeurs tahitiens finissent tout de même à la 5e place de ce tournoi au format très particulier. On retrouvera bien sûr Valdemar Delage dans vos prochaines éditions pour nous parler de ces deux derniers jours de compétition à Honiara. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le retour de l'info, ce sera à 16h et ce sera pour le flash de la rédaction.